faire.
Bien, nous abordons donc la quatrième séance de cette série sur la Renaissance. Les Renaissances, pourrait presque on dire, hein, en Europe. Je vous rappelle l'organisation de ces séances. On avait, pour commencer, fait une première séance où nous avions un peu parlé de la Renaissance tous azimuts pour voir quelle définition finalement plurielle on pouvait donner à cette période intellectuelle, mais pas qu'artistique, hein, de l'Occident. On a fait une deuxième séance, voilà quelqu'un qui arrive, juste avant la fin de l'année, bonjour, qui avait pour but d'évoquer la Renaissance en France, qui n'avait pas été forcément couronnée d'un succès extraordinaire. On avait un peu pataugé. Hein. Et puis la dernière fois, alors là, c'était, n'est-ce pas, tout à fait parfait, on a travaillé sur la Renaissance italienne, qui a été évidemment un peu la séance nodale, hein, puisque la Renaissance italienne est un peu la mère. Bonjour Brigitte.
Merci.
Entre. On vient juste de commencer. Hein.
Je crois que j'ai signé la semaine dernière.
Ah, bah oui, c'est vrai, tu avais signé en avant-propos. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quatrième séance qui va s'intéresser à un autre domaine de la Renaissance. Alors, je ne vous dis pas lequel, on va petit à petit le découvrir. Comme dans la séance précédente, j'ai préparé une petite vingtaine de diapositives, d'œuvres différentes, uniquement picturales. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on reste dans la peinture. Ça me paraissait plus simple, étant donné les territoires auxquels on va s'intéresser. Et donc, l'idée va être de regarder ces œuvres, de tourner autour, de les décrire, de voir leur matérialité, de voir leur sens, pour petit à petit, devant leur auteur, bien sûr, pour petit à petit dégager, là aussi, la silhouette de ce que c'est que la Renaissance dans ces territoires que nous allons explorer. Ça vous va ?
Oui.
Là aussi, comme la fois dernière, et pour ne pas vous perturber, j'ai mis les œuvres dans l'ordre chronologique, et une fois que nous avons vu une œuvre, je vous montrerai tout de suite l'œuvre avec son cartel, donc on va confirmer les acquis au fur et à mesure de la séance. Bien. Alors, nous commençons par la première œuvre, très connue, qui, à mon avis, va tout de suite vous permettre de voir de quoi nous allons parler. Œuvre vraiment célèbre. Voilà. Donc, enfin, on commence, effectivement, presque par la fin, c'est-à-dire par l'auteur. C'est évidemment une œuvre de Durer, mais maintenant, allons-y, essayons de voir de quoi il s'agit. Bon, c'est une peinture, on l'aura compris. D'ailleurs, vous avez des peintures aujourd'hui, donc on ne va pas gloser sur la technique. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Quel est le sujet de cette peinture?
C'est un autoportrait.
Ah, alors j'entends deux choses. J'entends un autoportrait et j'entends un Christ.
Non, c'est un autoportrait.
Alors, c'est un autoportrait ou c'est un Christ?
C'est un autoportrait.
En Christ. C'est un autoportrait en Christ. C'est quelque chose qui, à la fois, représente l'artiste lui-même, hein, et qui, en même temps, représenterait le Christ. C'est-à-dire que l'auteur s'est représenté quelque part sous les traits de Jésus. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore de cette œuvre? Si tant est qu'elle représente effectivement cela.
C'est monochrome.
Oui, c'est une œuvre évidemment très monochrome. Hein. Ce n'est pas une œuvre super colorée, vous avez raison.
Alors, on voit complètement là. Ça remplit complètement la toile.
Oui.
Oui, il y a un cadrage assez.
Voilà, il y a un cadrage resserré sur le buste du modèle, effectivement. Oui.
Sur un fond sombre, unique, complètement.
Oui, oui, oui. Effectivement, pas de paysage, pas de décor intérieur, un fond sombre.
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit?
Alors, il y a des choses écrites, effectivement. Est-ce que vous arrivez à... Bon, à gauche, vous arrivez à voir.
Hein,
c'est quoi? C'est son monogramme. Hein, monogramme.
C'est toujours le même.
AD, oui, toujours le même, effectivement. Avec quoi?
La date.
1500. Hein. Voilà.
Alors, Albrecht Dürer, gna gna gna, je ne sais pas.
Ça commence par un M. Oui. Alors, difficile de lire, sans doute. Hein. Mais effectivement, vous avez bien lu le départ, Albrecht Dürer. Il y a donc quatre lignes qui, à votre avis, peuvent dire quoi?
Il explique ce qu'il a.
Est-ce que vous voyez la fin, peut-être?
Non,
Anno.
Oui, mais en latin.
Oui, en chiffre romain.
En chiffre romain.
Anno.
Alors c'est XX.
XX, anno. Ouais.
Alors c'est XX.
XX.
28.
28. Voilà. Donc c'est pas 18, mais 28. XX, V, 1, 2, 3. 28.
Son âge.
Voilà, c'est son âge. C'est-à-dire qu'il a, il est âgé de 28 ans quand il réalise le portrait que vous voyez là. Bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces inscriptions ?
Qu'il a l'intention d'en faire d'autres, avec un âge plus avancé.
Est-ce que c'est rare de signer comme ça aussi précisément ?
Bah, c'est définitivement la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que là, c'est monogrammé, à gauche, daté. Déjà, il y a pas mal de choses qui se passent là, mais on a encore plus à droite. C'est-à-dire que le personnage vraiment décline son nom, Albrecht de Dürer. Après, vous voyez, il est originaire d'où, Dürer ?
D'Allemagne.
D'Allemagne, mais d'où, d'Allemagne, vous savez ?
Nuremberg.
Nuremberg. Donc là, c'est la contraction latine de Nuremberg. Ça commence par un N. Ensuite, les trois autres lignes qui suivent disent en gros qui il est, et ça termine par son âge, âgé de 28 ans. Donc, évidemment, là, le peintre, il décline son identité.
Hein. Il fait sa carte de visite.
Pardon ?
Il fait sa carte de visite.
En quelque sorte, oui. C'est un peu une sorte de carte de visite, et vraiment, tout nous est dit. Donc, et vous posiez la question de dire, mais est-ce que c'est si fréquent à l'époque, quoi ? Et votre réponse, ce serait quoi ?
Non.
Ben, pas trop, hein. Existe, hein, c'est pas très très fréquent. Et qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à l'époque qui nous intéresse ?
Un ego important quand même.
Alors, il y a peut-être une question d'ego, oui. Est-ce que c'est la seule chose que l'on pourrait suggérer ?
Il assure sa promotion.
Pardon ?
Il assure sa promotion.
Oui. Oui, en même temps, ce tableau, il est unique. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr que ce tableau ait été vu par 3000 personnes chaque minute, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas à l'heure de la télévision, des réseaux sociaux, donc on fait un tableau comme ça. Ce n'est pas non plus une pub qui s'affiche dans le métro, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, il y a une question d'ego, il y a une question d'autopromotion, mais peut-être faut limiter ces éléments-là. Qu'est-ce qui peut-être, je dirais, apparaît encore plus dans la manière de se présenter comme cela avec cette titulature qui est ainsi développée ?
C'est qu'il ne fait pas partie d'un atelier, c'est lui qui fait tout.
Alors c'est vrai que c'est une manière effectivement de dire qu'il est peintre, oui.
Et qu'il est susceptible de faire des portraits de qualité.
Alors, en plus, oui, on voit là un peintre qui montre son travail, il est capable de faire ça, il le dit. Hein. Donc effectivement, il y a une sorte, comment dire, de revendication de son statut, si vous voulez. C'est-à-dire que voilà un peintre qui se montre, qui dit qui il est, avec son âge, plus on ne sait pas le prénom de la grand-mère, enfin, et qui se revendique comme peintre, si vous voulez. Hein. Alors,
comme maître.
Et comme maître, voilà. Hein. Donc, c'est effectivement un élément important parce que vous avez remarqué dès le départ qu'il y avait une sorte de manière de se présenter d'une façon quasi divine. Donc, le peintre devient quelque part le créateur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il s'affirme en tant que peintre, hein, il se compare à Dieu d'une certaine façon, lui aussi crée. Vous voyez, rappelez-vous la première séance, on avait parlé déjà de tout ça. On avait vu comment la Renaissance, d'un moment où les artistes s'affirment en tant qu'artistes. Ça ne veut pas dire jusque-là les artistes n'existaient pas, mais quand même, leur statut était un peu différent. Souvent, les artistes étaient soit peu connus ou ne signaient pas, étaient considérés comme des artisans un peu améliorés, et souvent apparaissaient comme les valets, par exemple, des princes. Hein, ils sont désignés comme ça dans les archives. Avec la Renaissance, le statut d'artiste évolue. L'artiste devient un démiurge, quelqu'un qui est le créateur de la Terre, de l'univers. Hein. Ça, c'est assez nouveau. Et ce portrait-là, où en plus l'artiste se montre un peu à la manière d'un Christ, hein, est évidemment assez impressionnant. Hein. Alors voilà l'œuvre avec son Cartiglio, mais on l'avait deviné sans même voir le cartel. Alors, deuxième œuvre sur laquelle je vous propose de réfléchir.
Un paysage.
Un paysage, oui.
Avec une trouée.
Avec une trouée, oui.
Une scène de chasse au premier plan.
Alors, il y a effectivement au premier plan une scène. Alors, de chasse, évidemment, c'est un peu l'impression que l'on a, parce que qu'est-ce que l'on voit ? On voit un cavalier avec
une armure.
Cette armure vous fait penser à la chasse ?
Non.
Pas trop, parce que faire la chasse avec une armure, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais il a bien une armure et il en a un cheval.
Il y a un cheval parfait
aussi.
Oui. Il y a un. Qu'est-ce qu'il y a de marron ?
Alors, il y a quelque chose de marron.
Oui.
Eh bien, arbitrage.
C'est un soldat.
C'est un soldat, forcément, parce qu'il a une armure.
Oui, non, mais sur les
guépards. Ah, par terre, pardon. Non, par terre, c'est pas un soldat.
C'est un dragon ?
C'est plutôt un dragon.
Donc, c'est Saint-Jean.
Vous avez Saint-Georges combattant le dragon. Alors, faut le voir, effectivement. Autrement dit, qu'est-ce que ça vous suggère, tout ça ?
Alors, le paysage prend de l'importance.
C'est ça.
Bah oui, voilà.
C'est une œuvre très intéressante, parce qu'on voit comment le paysage prend de l'importance. C'est-à-dire, quand on voit ça, on voit plus un paysage que Saint-Georges terrassant le dragon. Alors, vous l'avez vu, et vite, mais enfin, quand même. Je veux dire, c'est d'abord le paysage qui est prégnant. Saint-Georges et le dragon sont un peu perdus hein, dans cet immense paysage. Donc, effectivement, ça c'est aussi une chose qu'on a vue en fur et à mesure de nos séances, c'est-à-dire à quel point le paysage à la Renaissance commençait à prendre de l'importance. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout au Moyen-Âge, enfin quand même, au Moyen-Âge, le paysage est discret, un peu secondaire, quand il est là. Hein. Rappelez-vous les artistes italiens du Trecento Quattrocento, hein. Vous avez généralement à l'arrière, très souvent, hein, peut-être éventuellement un bout de rocher, puis après c'est de la dorure. Hein. Voilà, hein, le fond est plat, il n'existe pas. Là, de plus en plus, à la Renaissance, on voit l'importance du paysage, quitte à ce qu'un sujet aussi important que Saint-Georges combattant le dragon, c'est quand même le bien qui convient le mal, quoi, hein, qui combat le mal, soit réduit un peu à la portion congrue, ce qui compte, c'est le paysage. Est-ce que vous avez une idée de l'auteur ? Et si vous n'avez pas d'idée de l'auteur, est-ce que vous avez une idée du lieu où cette œuvre a été réalisée ? Oui, vous aviez une idée ?
L'Allemagne.
Allemagne, absolument. Comme le tableau précédent, c'est une œuvre germanique, une œuvre allemande. Ouais. Une idée de l'auteur, pas du tout. Alors, non, je tiens pas. Vous aviez
une idée. Une idée, mais c'est peut-être pas la bonne. Altdorfer.
Altdorfer. Effectivement, qui est un contemporain de Dürer.
Hein. Et un peu un précurseur, justement, dans le paysage.
Absolument, absolument.
Avec des paysages pas toujours vrais, qu'il invente.
Du paysage inventé, absolument. On n'est pas encore à l'école de Barbizon, effectivement. Hein. Donc là, il y a un moment où le paysage, il est complètement inventé. On n'empêche pas, dans nos artistes, c'est le cas de Dürer, hein, de faire des paysages et j'allais dire, les faire devant les paysages réels. Hein. Mais c'était plutôt des dessins, des choses un peu intimes, des choses de carnet, etc.
Ils ne pouvaient pas emporter leur couleur.
C'est ça. Alors que là, vous avez un peintre qui réalise des paysages, mais des paysages complètement inventés. Altdorfer. Très bien. Bien. Allez. Œuvre suivante.
Cranach.
Cranach, bravo. Encore un germanique. Et que représente ce tableau de Cranach ? Vous connaissez son petit nom à Cranach ? Bon, il y en a deux en plus.
C'est l'ancien ou...
Voilà. Alors, il y a l'ancien ou ben, ils ont le même prénom. C'est Luca.
Ah oui,
Luca Cranach. Alors, qu'est-ce que... Bon, c'est une peinture, c'est là, là, le bien quand il n'y a que des peintures, c'est qu'on n'a pas à parler de la technique et autres. Hein. Mais quel est le sujet ? Est-ce que vous pouvez...
On a fait la courroie au cabinet
de culture. Eh oui.
C'est des abeilles qui est piquée.
Alors, la couronne est surprenante.
Il a volé...
La couronne de qui ?
Ben, de la femme.
Alors, on voit... Alors, peut-être commençons par le début, on voit une femme très habillée.
Très nue.
Une femme nue avec un chapeau, donc c'est évidemment bizarre. Elle a un chapeau, elle est complètement nue. Elle a quand même un. Oui, c'est un chapeau. Et elle a quand même une sorte de collier. Et puis il y a devant elle un petit amour. Ce qui veut dire que cette femme, a priori, c'est qui ?
Vénus.
C'est Vénus. Et le petit amour, c'est
Cupidon.
Donc on a Vénus et son fils. Puisque je vous rappelle que la déesse de l'amour a comme fils le dieu de l'amour. Vénus et Cupidon, rien que de très logique. Ça, c'est une affaire antique, voilà, bien. Et que se passe-t-il? Alors, certaines le savent déjà, ou s'en rappellent.
Je dis ou je ne dis pas?
Ah, pas encore. Parce que c'est le, vous savez, c'est la règle de nos âges, mais dès que...
Il y a des bêtes qui piquent. Il y a des abeilles, non?
Il y a également des abeilles, des
parce
bêtes
qu'il y a un
qui piquent.
Essaim, quelque chose.
Voilà, exactement, Cupidon, il tient.
Un essaim
d'abeilles, vous le voyez là, l'essaim. Et vous voyez qu'il y a des abeilles qui piquent Cupidon. Alors, il dit quoi, Cupidon? Enfin, il n'a pas l'air très content, Cupidon.
Non.
Hein.
Non.
Bien.
Il y a des animaux dans le fond.
Il y a évidemment des animaux dans le fond. Vous avez raison, c'est quoi comme animaux?
Un
cerf.
Un âne.
Non, oui, enfin, c'est, en fait, c'est une biche. Qui a un peu la une tête d'âne, mais c'est bien une biche. Hein, c'est
et le paysage, quand même. Avec...
Oui, il y a un paysage complètement
extraordinaire. Complètement extraordinaire, effectivement. Ah, ouais. Hein, voilà aussi un paysage complètement inventé. Voilà. Hein, ouais.
Le pommier m'intrigue.
Oui, le pommier est peu intrigué, vous avez raison. Hein.
Ça fait référence à
Adam et Ève. Exactement, le pommier fait forcément référence à Ève. Hein. Comme s'il y avait une sorte de parallèle entre Ève et Vénus. Il est vrai qu'il peut y avoir un parallèle, on peut le comprendre. Hein. Mais alors, pourquoi ce Cupidon, avec son essaim qui se fait piquer, que Paul est bien content et qui regarde sa mère, qui, elle, a un air entendu. Il y en a une qui le sait, mais est-ce que les autres ont une idée?
Est-ce qu'il s'est fâché?
Ben oui, il est fâché parce que, évidemment, il se fait piquer, c'est pas rigolo. Il a beau être le dieu de l'amour, se faire piquer. Alors, Michel, vous allez nous dire.
Eh ben, les piqûres d'abeilles veulent retranscrire les piqûres de l'amour, donc il subit les affres de ce qu'il fait subir.
C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que Cupidon est en train de se plaindre à sa mère par qu'il est piqué par les abeilles, et sa mère lui dit bah, écoute, tu vois ce que tu fais subir aux gens. Voilà. Parce que nous autres mortels, nous sommes en permanence piqués par les piqûres de l'amour, et bien Cupidon, la vie, effectivement, ce qu'il fait subir à nous autres. C'est ça l'idée. Et alors Cranach a très souvent présenté ce thème. On connaît au moins une dizaine de compositions représentant ça. Et donc, revenons un instant sur le pommier. Donc, vous disiez qu'il y avait donc un parallèle avec Ève. Si on voulait le préciser, on dirait quoi?
Elle ne cueille pas une pomme. Hein.
Pardon?
Elle ne cueille pas de pomme.
Non, mais elle va peut-être le faire. Vous voyez, elle est en train de faire ployer une branche. Bon, je pense qu'elle ne va pas cueillir la pomme.
Oui.
Hein.
Elle ne le fait pas.
Non, mais c'est...
C'est l'amour et la beauté qui sont en patrice,
en fait. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a là un peu une divinité païenne qui semble être, j'allais dire, mise en parallèle avec cette figure ô combien chrétienne qu'est Ève. Et qui, évidemment, se fait tenter par la pomme. Et donc, il y a presque une mise en parallèle entre les deux. Ève, c'est le péché originel, quoi. Hein, incarné notamment par le péché de chair. Et on a là une sorte de parallèle qui est suggéré. D'ailleurs, il y a une chose amusante qui permet un peu de continuer ce parallèle-là, par la suggestion. Vous avez remarqué qu'entre les jambes de la...
Oui.
Il y a de mon jambe, voilà, qui fait penser à une sorte de serpent. Alors qu'il n'en est pas un, mais voilà, qui est une sorte de suggestion serpentine.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc c'est assez marrant. Et pourquoi se sert cette biche?
Je ne sais pas.
Ben, c'est un couple.
Alors c'est un couple, et il semble que le cerf, dans, on annonce notre atelier futur, hein, le cerf évoque quoi dans l'iconographie traditionnelle hein?
La force
Ça peut, évoquer ça.
L'appétit sexuel. Oui.
Voilà, c'est ça, l'appétit sexuel. Le cerf est un fornicateur invétéré. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est là, ce n'est pas un hasard. Hein. Donc, vous avez raison, c'est une œuvre de Luca Cranach. l'ancien, Vénus et Cupidon, on est vers 1525, encore un contemporain de Durer. Vous voyez que ces pays germaniques sont bien représentés hein, dans cette renaissance du début du XVIe siècle. Allez, on regarde le suivant. La Seine, effectivement. Qu'est-ce qu'on aurait à dire?
Un peu paillarde.
Pardon?
Elle est un peu paillarde.
Un peu paillarde. Qu'est-ce que vous trouvez de paillard?
Les attitudes.
Oui.
Le déballage.
Oui. Le côté un peu désordonné.
Oui.
Hein, c'est vrai que c'est une scène qui a un petit côté relâché, quelque part. Hein.
Oui.
Hein.
Ils ont presque une gestuelle d'auberge.
Oui, on pourrait se croire dans une auberge, alors que c'est quand même the scène. Avec au centre. Voilà.
Et puis les médaillons sont un peu gros, les deux gros médaillons.
Oui. Ils sont un peu gros,
ils sont très gros.
Oui, ils sont très présents en tout cas, oui. Ouais.
En plus des apôtres, il y a un serveur.
Non, c'est Judas.
C'est Judas.
Vous parlez de celui-là.
Il y a quelqu'un dans
le violet.
À gauche.
Quoi, ici?
Oui.
Ah non, je pense que ça, c'est bel et bien celle parce que de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez les 12 apôtres et lui, c'est un serviteur qui amène. Voilà. Donc Judas, il est, je pense, hein, très vraisemblablement là.
Il est souvent
roux. Hein. Voilà, il est prêt à partir. Judas, en général, est représenté roux. Le personnage de l'action représenté roux, comme s'il avait les cheveux embrasés par le diable.
Hein. Et puis alors, il a une position, il est prêt à partir.
Oui, absolument, il s'en va. Il va partir et pour cause.
Oui,
hein. Voilà. Alors, il n'a pas, on ne voit pas la bourse qu'il a très souvent déjà dans ses représentations. Et voilà, mais enfin, on sent qu'il est en train de partir. Cette œuvre que vous voyez là, vous en rappelle d'autres choses?
La tête du Christ, oui, elle fait penser à quelque chose. Sa forme,
paraît très hollandais, je trouve.
Mmh. Oui. Et le paysage par derrière, encore une fois.
Oui. Donc vous verriez, décidément, une chose tout à fait nordique.
Oui.
Oui. Vous parliez des deux médaillons qu'il y a derrière. Qui représentent quoi?
Des scènes de guerre, de bataille, de combat.
Oui, est-ce que vous les reconnaissez? Qu'est-ce que vous voyez là?
Vous
ne voyez pas?
Ah si, il a la tête, il a décapité quelqu'un.
Voilà, on voit un personnage qui a un sabre et qui a décapité quelqu'un. Voilà ce personnage qui porte un sabre et qui décapite quelqu'un. Et voyez là le corps du personnage décapité.
C'est Saint Jean-Baptiste.
Alors, ça pourrait être, mais on aimerait avoir Salomé, qu'on voit pas trop.
C'est l'Ancien Testament.
Oui. Donc ce serait qui? Très simplement.
David et Goliath.
Vous avez David, un jeune homme, là, qui tient la tête de Goliath, et Goliath qui est par terre, devant. Voilà. Donc, voilà. Et là, est-ce que vous devinez quelque chose? Deux personnages aussi. Hein. Pardon?
Un qui tient la tête de l'autre et qui va le décapiter.
Voilà. Un, là, qui est agenouillé et qui est en train de vouloir taper sur un personnage qui est par terre. À l'arrière, vous devinez quelque chose avec une petite fumée, là.
C'est
le sacrifice.
Ah, ben c'est Isaac.
C'est
Isaac.
Abraham. Ah, ça pourrait être le sacrifice d'Abraham, mais c'est autre chose, c'est un autre sacrifice, mais c'est pas celui d'Abraham.
C'est Cain et
Abel. C'est Cain qui tue Abel, et vous savez, il y a le sacrifice qui marche, celui qui marche pas, et c'est parce que le sacrifice d'Abel marche que Cain va tuer Abel. Et voilà. Donc il y a effectivement derrière deux scènes un peu, comment dire, fondatrices hein, de l'Ancien Testament qui sont représentées. Qu'est-ce que ça vous suggère par ailleurs, ces médaillons à l'arrière? tout ça.
C'est l'Ancien et le Nouveau Testament.
Oui, oui. Donc on a évidemment l'Ancien Testament derrière, le Nouveau Testament devant. Hein, donc vous savez que ce jeu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux grandes parties de la Bible finalement, hein, est très souvent fait dans l'iconographie chrétienne. Hein. Mais encore...
La filiation de Jésus par rapport à David.
Oui. Et esthétiquement, est-ce que ça vous...
C'est une géométrisation qui vient à l'encontre de tout le reste, qui est un peu fouillis.
Ah, mais vous voyez là quelque chose de plus ordonné que ce qu'il y a sur le devant.
Oui, sévère même.
Ok.
Esthétiquement, les couleurs sont à la fois vives et contrastées.
Ah, vous parlez du départ, du devant.
Oui,
du devant. Oui, oui. Mais je reviens à ces médaillons, esthétiquement, ça vous rappelle quoi? Oui. Bon, dans les églises gothiques, il y a plein de bas-reliefs comme ça. On est bien d'accord.
Non, ça, c'est
l'Antiquité. Bah non.
L'Antiquité.
Ben, ça rappelle l'Antiquité. Car ce que vous avez là, ces deux médaillons-là rappellent absolument ce qu'on a dans l'Antiquité romaine, pas du tout dans l'architecture et la décoration architecturale gothique. Hein. Alors, si vous m'en trouvez... Si, on trouve quelquefois dans les cathédrales, sur les portails, mais dans des médaillons qui sont plutôt polylobés, hein, des représentations des mois et autres. Mais ce genre de choses qui fait penser aux médailles antiques, hein, aux monnaies antiques,
oui,
hein, sont vraiment une référence esthétique évidente. À l'Antiquité, vous ne trouveriez pas ça du tout, ou très peu, ou pas de la même manière au Moyen-Âge. Hein. Donc là, vous avez, couronnant la scène, hein, dans une salle qui pourtant est très médiévale. Vous voyez cette fenêtre à meneaux, etc., les volets, tout ça est très médiéval. Mais ça, ces deux éléments sont une espèce de citation. On dirait l'arc de Septime Sévère à Rome. Vous savez là, ou l'arc de Constantin, avec plutôt de Constantin, pas de Septime Sévère. Avec des médaillons comme ça, justement. Hein. C'est vraiment plaisir, une citation de ça, une citation de l'Antique, que vous n'auriez pas du tout avant. Hein.
Il y en a quatre autres de suggérer comme
oui.
Médaillons.
Absolument, parce qu'il y en a deux en bas, qu'on voit à peine, deux sur le côté. Absolument, il y en a un là, un là, un là, un là. Ouais. Cette scène vous rappelle autre chose?
Des représentations de repas,
de banquets.
Et lequel? Pardon? Oui.
Non, de peinture.
Oui.
Des noces, des choses comme ça.
Mmh. Et vous avez un exemple en tête?
Google.
Oui. Léonard Vinci, non.
Monsieur, mais je sais pas. Mais c'est pas comme ça.
Ah ben, chaque peintre a son style. Mais quand on voit ça, c'est la traduction. Et vous le disiez tout à l'heure, flamande, nordique, du modèle de Léonard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, vous avez, parce que cette scène-là, avec, regardez ce personnage-là, même là, vous disiez tout à l'heure, les personnages, mais dans la scène de Léonard Vinci, c'est pas du tout statique. Hein. Alors simplement, dans la scène de Léonard, rappelez-vous ce qu'on a vu la dernière fois, hein, on a, d'abord, la scène de Léonard est beaucoup plus abîmée, hein, vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. Hein, voilà. Et puis vous avez le décor n'est pas du tout le même. Donc là, vous avez une sorte de vivacité que vous avez bien sentie dès le départ, hein, flamand, nordique, hein, qui, je veux dire, excite les personnages. Hein. Mais autrement, vous avez là tout à fait le même modèle, si vous voulez.
Mais quelle dimension?
Ça, c'est un tableau qui fait un peu gros cette taille-là.
Ouais.
Il y en a une très belle réplique au musée d'Autun, d'ailleurs. Vous avez l'Autun, vous avez même. Alors vous allez me dire le peintre. Parce que vous connaissez votre musée d'Autun sur le bout du doigt. Non? C'est Peter Cogdalst. Qui est donc un peintre flamand. Et donc voilà sa scène. Qui, effectivement, vous l'avez bien senti dès le départ, est une œuvre très, très nordisante, avec ce côté, ce goût pour représenter tous les ustensiles, etc. Espèce de côté un peu, vous disiez paillard tout à l'heure, le mot était peut-être un petit peu fort, parce qu'on n'est quand même pas dans une maison close, hein. Mais ce côté un petit peu comme ça, voilà, mouvementé, on va dire, hein, qui effectivement est très, très nordisant. On va dire, hein. Bien, on continue. Une dame qui reçoit la pluie d'or. Vous avez dit son nom.
Danae.
Danae, qu'est-ce qui lui est arrivé à Danae?
Encore un coup.
Encore un coup de
Zeus.
De Jupiter. Oui, alors, elle met précisément, racontez-nous l'histoire.
Une histoire de fumée pour la séduire, s'est transformée en pluie.
C'est ça. Jupiter avait remarqué parmi les mortels la belle Danae. Et la belle Danae était enfermée dans une sorte de recel, hein, n'est-ce pas, parce qu'on craignait trop qu'elle soit séduite par quelques galants, et peut-être même par Jupiter lui-même. Et Jupiter, qui évidemment est un contentionniste de première, s'est transformé en pluie d'or, et il est venu ainsi féconder Danae, c'est ce que vous voyez là. Danae avec une pluie d'or qui la submerge. Bien. Donc voilà pour le sujet, un sujet un peu plus antique. Hein. Bon, donc déjà voilà une chose bien naissante, mais que diriez-vous d'autre ?
Mais le paysage est un peu gothique.
Est assez ?
Gothique, comme là, les architectures.
Alors, pour ça, oui, pour ça, ça, moins, je trouve. Hein. Oui, oui, un peu de droite à gauche, une sorte d'évolution. À droite, vous avez les derniers feux du gothique, un gothique très
flamboyant.
Hein. Et puis, à partir du moment où on commence avec la deuxième section du paysage, et ça continue après, ça, par exemple, ça fait penser à quoi ? Rappelez-vous la fois dernière ?
Oui, le temple rond, là.
Voilà, le Tempietto de...
Je ne me rappelle plus.
Le Tempietto de... Ah, on n'a pas révisé ses notes, pardon ? Bramante.
Hein. Ah oui, Bramante.
Bramante. Ça fait penser aussi à la coupole de...
Florence.
Oui, Florence, mais par qui ?
Brunelleschi.
Hein. Donc on est là devant un paysage à l'arrière, architectural, qui effectivement commence par du gothique tardif et après nous montre une sorte de panorama d'architecture de la Renaissance. Très bien. Et puis quoi d'autre encore ?
Et puis les colonnes.
Les colonnes. Voilà un vocabulaire très antique, des colonnes corinthiennes avec la base à deux tores correspondantes, des belles colonnes en porphyre ou en marbre veiné. Enfin bref, voilà un sujet vraiment antique, traité à l'antique. Hein. Belle œuvre par ailleurs. Hein. Avec ce bleu.
C'est
joli, très beau. Hein. Ouais. Bien. Et alors, quel est le peintre ?
On est dans le Nord.
On est dans le Nord.
Et c'est un peintre qui connaît l'Italie, puisqu'il a représenté des architectures italiennes. Donc il a dû aller en Italie.
Il a dû aller en Italie, ou du moins s'intéresser à l'Italie, oui. Mm-hmm. Je vous mets sur la voie, c'est le peintre préféré de Marguerite d'Autriche, que vous connaissez. Mm-hmm. Marguerite d'Autriche, elle fait construire le monastère royal de Brou. C'est une bourguignonne, la petite fille de Charles le Téméraire. Et son peintre préféré, c'est...
Lui.
Jan Gossert.
Ah, Mabuse.
On appelle Mabuse parce qu'il est né à Maubeuge. Maubeuge, Mabuse. Gossert, c'est le peintre de Marguerite. Enfin, il y avait d'autres, hein, mais voilà, il a travaillé pour Marguerite d'Autriche. Bien. OK. Eh bien, on continue. Oui. Ouais.
C'est des Madeleines.
Alors oui, cette peinture représente a priori
Marie-Madeleine.
Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Le
pont en gants. Vous savez que Marie-Madeleine est la sainte femme qui va avec d'autres au tombeau pour voir pour embaumer le corps du Christ. C'est elle qui ne découvrira pas, puisque entre-temps, il est ressuscité, elle est donc représentée avec un pont en gants. Bien. Donc, c'est Madeleine, effectivement. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette représentation de Madeleine ?
Bah, elle est... C'est relativement ambigu, parce que ce regard renvoie au passé de Madeleine, quand même.
Oui, et dites-nous pourquoi.
Bah, c'était une... On va dire une dame...
De mauvaise vie.
C'était une prostituée.
C'est ça, c'est une prostituée, Madeleine. Alors, vous savez que Madeleine, c'est une figure très compliquée, parce qu'en fait, Marie-Madeleine est un peu la concentration de plusieurs figures qui apparaissent à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, et dont on a fait, j'allais dire, une image générique, hein. Mais c'est compliqué. Mais effectivement, Madeleine, c'est la femme dite de mauvaise vie, mais qui, quelque part, se rachète, hein, par le destin qui va être le sien, effectivement. Hein. Et donc, ce regard peut faire penser à ça, mais il peut faire penser à quoi d'autre ?
Le regard un petit peu de Léonard de Vinci quand il fait ses portraits, donc on dirait que c'est presque un peu à la manière de...
Alors, oui, vous avez raison, il y a là, sans doute, le développement de la maniera, on est là devant l'artiste qui, effectivement, travaille à la manière de, donc, quelque part, il y a une référence aux grands Italiens. Mais le fait de nous regarder comme ça, du coin de l'œil, c'est une manière de dire quoi aussi ?
De vous prendre un témoin.
C'est ça. C'est aussi une manière de nous concerner, si vous voulez. C'est une manière de nous dire, bon, et toi, là, tu fais quoi ? Est-ce que tu es comme moi, tu vas aller au tombeau, toi? Donc c'est l'idée de nous faire rentrer dans l'œuvre, nous concerner par l'œuvre. Marie-Madeleine, elle n'est pas là, comme dans les œuvres médiévales, une femme qu'on regarde en disant, oh là là, formidable cette fille. Hein. Elle est là, c'est elle qui nous questionne, qui nous dit, bon, maintenant, à vous d'y aller. Quoi.
Il y a un petit personnage.
Oui, ouais. Exact. Ici.
Oui.
Et ça.
Ça ne serait pas Jésus, jardinier de...
Ouais, voilà, on peut se demander, effectivement, si ce n'est pas le jardinier. Vous savez que Marie-Madeleine, hein, après la mort et la résurrection du Christ, va dans un jardin, seulement de la mort du Christ, voit un jardinier qui arrive, et elle le reconnaît, le Christ ressuscité, le Christ lui dit « ne me touche pas, ne les mets en l'air ». Donc on peut se demander, effectivement, si ce n'est pas... le jardinier en question. Je ne suis pas sûr parce qu'il a une barbe vraiment très longue, il paraît très sénile. Alors le Christ est souvent présenté en Occident avec une barbe, non, mais il est un peu trop sénile pour être christique, à mon avis, mais on peut quand même se poser la question, effectivement.
Et elle est somptueusement habillée.
Elle est somptueusement habillée. Ça aussi, ça rappelle son passé, hein, quelque part, hein, de femme qui se vêt bien pour être d'autant plus séduisante. Oui.
Les rochers sont bizarres.
Oui.
Ah oui. Rocher ou nuage, je ne sais pas.
Rocher.
On dirait qu'il y a des ruines.
Celui, pardon ?
On dirait des ruines quelque part.
Il y a un côté un peu ruine, oui. On a l'impression. Alors que ça n'en est pas, mais on a un peu l'impression de, c'est vrai. Et puis qu'est-ce qu'on a l'impression de voir aussi ?
Ah, il y a un personnage en cours.
Il y a
Dans
les communes grottes. Ici, oui, il y a effectivement des personnages. Alors, ici, on voit même trois personnages. Un, deux, trois. Qu'est-ce que ça pourrait être, d'ailleurs ? Je ne suis pas sûr, hein, parce qu'on ne voit pas très bien.
C'est les anges qui gardent.
Voilà, je pense. Je pense que c'est les anges qui gardent le tombeau. Je pense. Je pense que le tombeau est là, que c'est l'évocation des anges. Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce qu'on voit mal, mais je dirais volontiers ça aussi. Mais effectivement, vous avez là des rochers qui ont un peu une drôle de forme, qui ressemble à des ruines, alors ça n'en est pas, qui ressemblerait presque à quoi aussi ?
Un dragon.
Oui, ça peut être ça. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui nous forme. Vous avez vu l'arbre à droite ?
Oui, mais...
Avec cette espèce de tronc cassé, ouvert, vraiment drôle de forme aussi. Vous rappelez, dans une autre vie, on avait fait, il y a des années, hein, un atelier sur les trompe-l'œil, vous vous rappelez ?
Oui,
les
anamorphoses.
Ouais. Et les anamorphoses, etc. Et on avait remarqué à quel point la Renaissance aimait ça. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup faire des rochers comme ça, parce qu'effectivement, ce rocher, il est à la fois inquiétant, donc c'est pas une espèce de monstre, ou alors de vieillard, une sorte de barbe, enfin, vous voyez, il y a un côté inquiétant, bizarre, étrange, un peu, c'est presque anthropomorphique, est-ce que ce n'est pas un personnage fossile, enfin, voilà. Et ça, la Renaissance adore ce genre d'allusion-là.
C'est le rêve des gens du Nord avec leur pays plat.
C'est ça, oui, c'est ça. Les gens du Nord fantasment sur des montagnes, hein. Ils n'en ont pas, alors dès qu'il y a quelque chose qui fait 2 mètres de haut, alors, c'est
l'Everest. Pareil, ils les traversent pour aller en Italie.
Pardon ?
Ils n'en ont pas de montagnes, mais ils les traversent.
Absolument, absolument, ils les en ont vus. Ils ont
de souvenirs.
Oui, oui. Alors, il y a des montagnes comme ça, on en voit peu quand même. Hein. Et donc, le fait de travailler des montagnes de ce genre, c'est une manière de proposer, effectivement, quelque chose de zoomorphe. Est-ce un animal fantastique, un démon, ou est-ce un personnage extravagant? Enfin, voilà, l'idée de suggérer des formes un peu spéciales, ça, c'est une chose très renaissante.
L'arbre est bizarre dans la mesure où il y a une partie qui est morte, ouais. Il y a une partie.
Absolument.
Donc, est-ce que ça symbolise la religion juive et la religion chrétienne naissante ?
Alors, c'est une possibilité, ou bien ça permet aussi de symboliser la vie qui part de la mort. Oui. C'est-à-dire que la mort, l'arbre de droite mort, n'est que la mort, et la vie continue. Vous voyez ce que je dis, hein ? Donc, effectivement, comme vous, je pense, hein, je n'ai pas connu l'artiste, mais que, évidemment, cet arbre mort et vivant, à la fois, n'est pas un hasard, hein, et qu'il y a là quelque chose qui a pour but évidemment de montrer ce côté la mort n'est que la mort, mais en fait la vie continue, quoi. Voilà. Donc effectivement, beaucoup d'éléments volontiers symboliques, n'est-ce pas, dans un tableau tel que celui-ci. Là aussi, l'auteur, vous le mettriez de quel côté ?
Dans
le Nord. Une idée d'un nom, peut-être, c'est compliqué. C'est Jan van Skorrel. Hein, voilà. Bon, les renaissants du Nord sont bien moins connus que les renaissants du Sud, hein, l'Italie, la fois dernière. Hein. Bien. Mais voilà un très bel artiste renaissant hollandais. Et alors, le suivant, ça, vous le connaissez.
Holbein.
Voilà.
Et là, il y a une anamorphose.
Voilà. Alors là, il y a une anamorphose, hein, superbe, célèbre. Hein, voilà. Alors moi, si je me mets là, ou plutôt de l'autre côté, l'anamorphose, elle se reconstitue. Il faut être sur le côté pour... voilà, là, c'est parfait. Moi, l'anamorphose, elle est recréée. Hein. Vous savez qu'une anamorphose, c'est un dessin modifié, si vous voulez.
Déformé,
voilà. Et qui se reforme quand on est d'un certain côté. Pour vous, c'est une espèce d'os de sèche informe. Moi, sur le côté, je vois que ça se reforme. L'anamorphose, c'est quoi ? C'est un crâne. Hein. Et moi, là, je vois parfaitement le crâne de côté, là, très bien, alors que vous voyez un truc. Ça, c'est un crâne. Bien. Ce tableau, donc, vous avez trouvé le nom de l'artiste, s'appelle Holbein. Holbein, en français.
Holbein.
On l'appelle les ambassadeurs. Mais ça présente qui ? Enfin, je ne vous demande pas leur nom, ça, il faut que je les garde, mais qui ils sont ?
Les ambassadeurs à la cour d'Angleterre.
Oui, auprès de quel roi ?
Henri VIII.
Henri VIII. Et c'est des ambassadeurs qui viennent d'où ?
Ah ben, il y a un Français.
Il y a même deux Français.
Deux Français.
Ah, oui, vous avez deux ambassadeurs français. Alors, il y a un profane et un religieux, c'est José, hein, mais effectivement, qui viennent, enfin, du moins, ils sont délégués par le roi de France, qui n'est autre que
François Ier,
voilà, pour aller voir le roi d'Angleterre, Édouard VIII. Vous savez, c'est le moment où
Henri VIII.
C'est le moment où Henri VIII veut divorcer son épouse précédente pour épouser Anne de Boleyn, et où il essaie d'obtenir du pape. L'annulation du mariage, il n'y arrive pas. Alors, le roi de France essaie de se mettre entre les deux. Enfin, bref, ça, tout ça va d'ailleurs foirer, mais bref. Voilà, donc ça, ce sont deux ambassadeurs. Ils sont représentés de quelle manière ? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ?
Ils sont représentés avec des tas d'objets.
Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'on peut les représenter aussi sur le fond de rideau, puis basta.
C'est des
érudits.
Oui,
voilà. Effectivement, tout ça est là pour montrer l'érudition des personnages, leur caractère cultivé, hein, ce qui fait qu'effectivement, il y a des instruments de musique, des instruments d'astronomie, des ouvrages, des partitions, toutes sortes d'objets scientifiques. Donc il y a effectivement toute une série d'objets qui montrent la la qualité des personnages. Et c'est anamorphose au premier plan, quid.
C'est pas
une vanité. Pardon. Voilà, c'est l'idée, finalement, la vanité, effectivement. Finalement, pourquoi tout ça? Parce que tout finit de la même manière. Donc effectivement, une espèce d'invitation à l'humilité face à la vanité des choses. Et malgré tout, les choses sont montrées. C'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus de nier la culture, puisque de toute façon, tout finit de la même manière, mais de, quelque part, la glorifier, même s'il ne faut jamais oublier que ça, voilà. Ça existe. Pas,
hein. Je ne comprends pas très bien les objets qui sont à l'étage, là, en bois.
Ceux-là ou ceux-là ?
Non, au-dessus.
Cela.
Plus à droite.
Alors, moi, je ne les comprends pas forcément non plus en détail. Il y a bon, une sphère, c'est le genre globarmillaire, etc. Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être. Alors, ça, c'est peut-être un. J'y connais rien en objets scientifiques anciens. Hein. Voilà. En tout cas, ce sont des objets scientifiques. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne saurais pas. Mais il y a. Ça, vous voyez, c'est
des
un.
Géométrique.
Voilà, voilà, là aussi, c'est. Mais je ne sais ni leur nom, ni sur quoi ça sert. Donc là, je suis plus. En tout cas, c'est des objets scientifiques évoquant la géométrie, l'astronomie, ce qu'on appelle. Décollère, tout ça, la géométrie, l'astronomie, la musique.
Les arts libéraux.
Les arts libéraux, vous savez, qui ont depuis le Moyen-Âge la base de la connaissance. Hein. Vous savez que dans les cloîtres, dans les églises, très souvent, sont représentés les arts libéraux, parce qu'un bon chrétien doit être un bon artiste, il doit avoir la connaissance. On n'est pas un bon chrétien si on ne sait pas compter, si on ne sait pas lire, si on ne sait pas faire de la musique, ainsi de suite. Quoi. Donc on a là une sorte d'allégorie des arts libéraux avec ses ambassadeurs. Donc effectivement, un très beau tableau célèbre de Hans Holbein, voilà, que vous connaissez. On continue. Oui.
Des ailes, c'est pas fini.
Oui, oui.
Il y a un crâne.
Oui.
Il y a aussi un crâne, oui.
Un phylactère.
Il y a un phylactère.
Un phylactère.
On n'arrive pas à lire dessus.
Inspice.
Zoris. Je sais pas quoi Zoris. Formae.
Je sais pas si c'est latin.
Ouais.
Oh, en fait, c'est pas un crâne, c'est un miroir.
Oui.
C'est un miroir qui reflète un crâne.
Oui,
feu,
oui, oui, oui.
C'est
ça. D'ailleurs, vous voyez que ce crâne est représenté un peu lévitant dans un intérieur, parce que vous voyez derrière une sorte de fenêtre qui se reflète. Donc c'est en fait plus... C'est pas un crâne qui tient, c'est un miroir reflété dans un crâne. Enfin, reflétant un crâne. Donc, il y a effectivement cette espèce de jeu de... Mais en tout cas, l'idée, elle est laquelle, là, à nouveau, d'ailleurs. Ben voilà, c'est à nouveau un memento mori, c'est à nouveau une vanité. Hein. On est toujours finalement dans un registre équivalent. Donc en fait, cette figure-là, c'est une figure complètement allégorique, en fait.
C'est maniériste.
Alors c'est, oui, là, évidemment, c'est une œuvre très, très maniériste. Hein. Alors, peut-être pas au niveau des ailes, des papillons, mais...
Non, mais le humain...
Voilà, ce personnage angélique fait beaucoup penser à Raphaël, par exemple. Ouais.
Hein?
Alors, il a un côté peut-être un peu trop marqué, un peu... Enfin, pas assez idéalisé pour être Raphaël, qu'on a vu la dernière fois, vous rappelez. Mais, on a là un Raphaël nordique, finalement.
Oui, c'est ça, anglais, même.
Oui, alors ça fait penser un peu à quelque chose d'anglais, oui.
Oui.
Hein? Alors ça ne l'est pas, mais c'est quand même nordique. C'est une œuvre de
Van
Hemsen. Très belle œuvre, très complexe, hein, du musée. Vous voyez, ces artistes-là, on les connaît mal. Hein.
Il
meurt
en araignée.
Oui.
C'est un Saint-Jérôme.
Oui, Saint-Jérôme.
On le reconnaît avec le crâne.
Oui. Mmh. Et alors, il est représenté dans quel contexte?
C'est curieux, il nous regarde. D'habitude, oui. Saint-Jérôme, il ne nous regarde pas.
Oui.
Il lit un livre et fait autre chose.
Et pourquoi? Là aussi.
Il a écrit la Bible.
Oui. La Vulgate.
La Vulgate.
Voilà. La Bible, j'allais dire, lisible par tout le monde.
Voilà. Hein.
Il a traduit la Bible pour qu'on puisse la lire. Oui, et donc qu'est-ce qu'il est représenté le maire? Alors, il nous regarde, je crois que la raison, elle était assez évidente, on l'a déjà dit tout à l'heure d'ailleurs.
Et il montre, avec sa main gauche, voilà. Il nous montre le crâne.
C'est ça. Il nous prend un témoin une nouvelle fois, c'est l'équivalent de cette manette tout à l'heure. Elle était un peu plus accorte que sous Saint-Jérôme-là, mais enfin, c'est quand même la même idée. Il nous intègre à sa réflexion. Effectivement, il manque le crâne. Hein, voilà. Il y a la Bible, vous l'avez dit. Hein. Là, il y a peut-être la traduction en cours de réalisation, je ne sais pas.
Il y a un Christ aussi.
Oui, un Christ, oui. Ouais. Et puis, c'est amusant parce que derrière, on retrouve quoi?
Des livres.
Voilà.
Le savoir.
C'est ça. On retrouve un peu, mais en plus court et en moins... comment dire, moins scientifique, les objets qu'on avait chez les ambassadeurs tout à l'heure. Ce sont les objets sur les étagères, les objets des gens cultivés qui permettent décidément la connaissance.
C'est le début des cabinets curieux.
C'est ça, ces cabinets curieux, alors qui existent depuis des périodes très anciennes, mais qu'on voit effectivement beaucoup développés en Italie au XVIe siècle, mais dans l'Europe occidentale, et on est dans un studio, là, hein, dans un de ces lieux où on travaille, où on réfléchit, où on s'isole, où on lit. Saint-Jérôme est dans son studio, là, ici. Bon, là, c'est pareil, le nom, je pense que... Oui, lui, il a un nom toujours, enfin, toujours imprononçable, hein, Reimersweiler. Voilà. Je ne garantis pas tout à fait l'accent. Hein.
Ah oui, mais toi, prends-nous.
Oui. Ouais. Oui. Oui, pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il y a correspondance avec les...
Voilà, absolument. Il faut voir que, vous le savez, hein, du fait d'ailleurs de questions de historiques, il y a de grands liens, hein, entre les territoires du Nord, ce qu'on appelle les Pays-Bas, hein, et l'Espagne. Hein. D'ailleurs, Philippe II, enfin Charles Quint, Charles Quint est empereur, et également il est roi d'Espagne. Donc voilà, il y a des ponts. Hein. Tout ça est dû d'ailleurs à la vieille histoire, la fin du Moyen-Âge, bourguignon notamment. Donc ces liens avec l'on du
on
Nord.
On parle du Pays-Bas espagnol.
C'est ça, on parle du Pays-Bas espagnol. Ouf,
là.
Marrant quand même, hein?
C'est
ça. C'est les âges de la vie. En l'occurrence, à travers la femme.
Ouais.
Tant qu'à faire. Voilà. Et alors, là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire?
Est-ce que la vie est brève et derrière la vanité, c'est un personnage.
Pardon?
Derrière, entre les deux dernières femmes, il y a un personnage.
Oui, qui va dans sens inverse de...
Oui, je demande, c'est pas un peu l'équivalent de ce bébé-là, si vous voulez, ça ferait ça, et on terminerait par elle, peut-être.
Ah oui.
Bon, un peu diaphane, voire fantomatique.
Parce que ça va l'air plutôt d'un homme qu'une femme.
Ah, pas forcément.
Et l'oiseau devant.
Eh bien, je me le demande, je ne sais pas du tout. C'est une sorte de pigeon-perroquet.
Et puis une plante de houblon.
Derrière?
Oui.
Ça?
C'est du houblon?
Je ne sais pas du tout. C'est pas de la vigne? Une vigne avec des grosses grappes, non?
C'est
le houblon?
C'est du houblon. Aussi, c'est peut-être une vigne devant et le houblon est derrière. Oui, mais la forme des feuilles.
Ah, ça c'est la feuille de houblon, ça?
Oui.
Et ça, c'est la feuille de vigne, non?
Non.
C'est un pays de bière.
Enfin, c'est dans le Nord, donc ça serait du Nord.
En tout cas, c'est le Nord. Oui, très curieux.
Bah, ça montre la vanité de la vie. Hein.
Alors, c'est toujours un peu la même chose. Évidemment, au bout d'un moment, on retrouve toujours un peu les mêmes thèmes hein, que l'on ressasse depuis 4 séances. Hein. Décidément, les périodes ont des invariants que l'on retrouve toujours. Hein. Mais il y a peut-être autre chose, d'ailleurs, moi, qui me frappe dans une telle que celle-là, où on voit effectivement une femme de A à Z, en quelque sorte. Hein. Et là, ça rejoint quoi que l'on a déjà remarqué hein, à plusieurs reprises hein. Tout nous est montré. Hein. On a les âges à la vie de la femme.
Oui. Il y a des séries d'habits qui sont différents.
Des
séries de couleurs d'habits qui sont...
Oui. Je crois qu'il y a beaucoup, si vous voulez, là-dedans, cette idée néoplatonicienne de la... C'est toujours pareil, un peu de la connaissance, de la classification, de la clarté, si vous voulez. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi. On essaie de... Si vous voulez, il y a un côté un peu encyclopédique. On essaie de voir, de comprendre, d'ordonner, de mettre en tableau. Vous voyez ce que je veux dire ? Une espèce de manière de comprendre des choses. Quoi. Alors on montre une femme de A à Z, c'est-à-dire de disséquer la réalité des choses. Hein. De la voir, de la comprendre du début jusqu'à la fin, alors on la montre. Et là aussi, vous auriez une idée de... Bon, de toute façon, vous avez bien compris, je crois que... C'est un des nordiques que nous avons là. Et là, c'est un nordique d'où ? Pardon ?
Flandre.
Alors, c'est un Allemand. Hans van Lungren. C'est avec Dürer et Arndolfer, qu'on l'a vu tout à l'heure, un peu le troisième fleuron, avec Cranach aussi, bien sûr, de la peinture allemande de la Renaissance. Hein. Arndolfer, van Lungren, Cranach, Dürer, c'est le quartet gagnant hein, de la peinture renaissante allemande. Hein.
Je dis dernière âge, elle ne se montre plus, elle est cachée plus que la tête.
Ouais.
Il y a pas un lien entre le bébé qu'on voit devant et le vieil. Pour moi, c'est plus un homme qui parle,
aussi,
qui est derrière.
Moi, je pense que c'est une vieille femme. Hein. Je pense vraiment que c'est une vieille femme.
Il y a une relation entre le bébé.
Moi, je pense évidemment que comme lui, le bébé est montré en avant, la vieille femme là-bas, encore une femme peut-être fantomatique, c'est peut-être la femme qui a été. Elle était à l'arrière, elle est spectrale. Enfin, moi, je le verrais vraiment comme ça. Hein.
Mais...
Oui, parce que les 7 âges de la femme.
Voilà. Voilà, absolument. Ouais. Je m'explique beaucoup moins cet oiseau au départ. Alors. Pas celui-là.
Non,
mais alors, donc, vous connaissez le nom de l'artiste.
Hein?
Effectivement, je vous ai déjà montré une œuvre de cet artiste-là.
Mais c'est pas des poissons ?
Non, c'est pas des poissons.
Il y a des poissons, il y en a deux.
Oh, il y a tellement de choses qu'à mon avis, on est capable de tout trouver. Hein.
Il y en a deux.
Sur le plein.
Oui. Il y a même des bretzels.
Oui.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce que vous voyez ?
La viande.
C'est un étal de viande, un étal de boucher. Et il y a effectivement deux poissons.
Parce qu'il y a le harangue en bas à gauche.
Oui,
il y a des
harangues. Ah oui. Ils sont sortis. Donc, un étal de boucher, point barre.
Ben non, il y a des personnages derrière.
Ouais.
C'est une préparation.
Alors là, effectivement, il y a visiblement le boucher, quoi, hein, qui est voilà, qui travaille, boucher. Vous voyez là, voilà, une dépouille de.
La gauche, regardez au fond, vers les arbres bleu vert.
Ici, vous voulez dire ?
Et puis au centre.
Non, au centre.
Ah oui, il y a des personnages.
Et puis.
Il y a les hommes avec un bébé sur une monture.
Ouais.
C'est la fuite en Égypte.
Et ben voilà. Il y a effectivement une dame avec un bébé sur un âne, avec un homme au départ. C'est quoi ?
La fuite en Égypte.
Ça vous rappelle des choses, ça ?
Oui. Où on avait vu un tableau avec un sujet apparemment très trivial, et puis en arrière-fond,
c'est ça.
Une scène.
Voilà. Je vous avais montré une autre œuvre de ce même artiste qui représentait, je crois que c'était un état de poissonnier, mais je. Il a fait tout, vous êtes le poissonnier, de légumes. Et c'est souvent en arrière qu'on trouve la scène principale. Donc la scène principale, c'est la fuite en Égypte, qui n'est qu'un petit détail. Hein. Et si vous voulez, elle est le prétexte à ces immenses natures mortes qui sont sur le devant. Alors ça aussi, nature morte, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça?
Est-ce que ça préfigure la mort à venir?
Pardon?
Est-ce que ça préfigure la mort du Christ?
Ça peut. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les poissons sont là comme pas. Alors, il y en a là, hein, mais les poissons sont là.
Et en croix.
Et
au centre.
Ouais. Vous savez que souvent, on dit du Christ qu'il est lictis. Lictis, ça veut dire poisson en grec. Et je pense que le fait que les poissons soient là sous le Christ n'est pas un hasard. Et en croix, effectivement.
Et sur la pancarte, à droite, qu'est-ce qui est marqué?
À droite, là-haut.
Ah oui.
Ça doit être du flamand.
Oui, c'est du flamand.
Hein. Je ne sais pas. Ouais. Il y a de la saucisse. Hein.
Oui. Oh, il y a des poumons.
Oui, il y a de tout. Mais justement, par rapport à cette abondance presque écœurante, c'est vrai. Ah, hein.
Ouais,
qu'est-ce que vous auriez à dire?
Au-delà de...
D'un réalisme très fort, oui. Presque hyper réaliste. C'est très surréaliste. Il y a un tel accumulancement que c'est plus que la normale. Quoi.
C'est une société de consommation.
Oui, il y a un côté société de consommation vraiment très fort. Hein. Et bien sûr, au Moyen-Âge, les natures mortes, il y en a des tonnes, vous le savez.
Des fromages, quoi. On dirait des quiches.
Eh bien non. Eh bien non. C'est-à-dire que la nature morte est une chose complètement nouvelle. Citez-moi des natures mortes médiévales.
On peut en avoir qu'une.
Pardon?
Il y a quelquefois des détails dans une scène.
C'est ça. Il peut y avoir, c'est ça. Voilà. Il peut y avoir effectivement dans des scènes, des détails, quelquefois d'ailleurs dans des scènes avec un C aussi. Hein. Oui. Des détails qui sont des natures mortes, mais la nature morte en tant que genre pictural est une chose qui n'existe pratiquement pas au Moyen-Âge. On la voit apparaître à l'extrême fin du 15e. Mais voilà, c'est... alors, quelquefois, je pense à telle œuvre de Barthélemy Deck, par exemple, on peut avoir des livres sur une étagère, des choses comme ça, mais la nature morte n'est vraiment pas un genre pictural en soi au Moyen-Âge. Là, vous voyez, la scène est vraiment figurée en tout petit, ce qui compte, entre guillemets, c'est la nature morte. Alors, pas d'idée du nom du peintre? Non, décidément pas. Ça vous rappelle quelque chose, Peter Hartsen?
Non. C'était pas celui-là, je pense.
Ah ben, il y en a, à vrai dire, il y en a deux.
Ben, c'était l'autre.
Ah, c'était l'autre. Alors, il y a Hartsen et il y en a un autre qu'on verra tout à l'heure.
Ah, ça ne dit pas son nom.
Et non.
Et quel est le rapport entre la Sainte Famille et puis l'étal du boucher?
Et le... Ben, il n'y en a pas forcément. Alors, il peut y avoir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'étalage de viande morte dans cette tête de bovidé en plein milieu, hein, on peut évoquer quelque part la mort du Christ, la mort et la mort. Hein, voilà. Mais alors, il y a les poissons qui, encore une fois, sont peut-être une évocation de l'ictis, de Dieu, enfin de Jésus plutôt, en croix. Voilà. Mais Hartsen, comme son collègue, que nous verrons plus tard, je vous le dis tout de suite, sont des artistes qui vraiment travaillent la nature morte et qui donne toujours à lire comme prétexte à la nature morte une scène très souvent tirée du Nouveau Testament. Voilà.
Ah bon. C'est presque, je trouve ça presque, ben, je ne sais pas comment c'était ressenti en 1550, c'est limite inconvenant. La Sainte Famille, qui est quand même, c'est pas rien. Oui. Et puis cet étalage légèrement répugnant de viande. Là.
Ben, c'est là qu'on voit l'évolution des temps. On est d'ici non plus au Moyen-Âge. Là, on a une époque où les temps changent, où tout change, si vous voulez. Là, il y a une espèce de d'abord de volonté de représenter bah, des natures mortes qui portent bien leur nom, là, en voilà. Donc ça, c'est très très nouveau. C'est un phénomène artistique, il n'existe pas avant. Sinon, comme on vient de le dire, hein, dans des points particuliers de scène où la nature morte apparaît de manière un peu secondaire. Hein. Et puis c'est toujours cette espèce de manière de montrer une sorte de catalogue du monde, si vous voulez. Hein. On exhibe tout, on montre, on figure.
Parce qu'au Moyen-Âge, en plus, quand il y a une nature morte, elle a un sens, un appétit, très souvent.
Oui. De toute façon, elle est liée à une scène. Oui. Donc elle veut dire quelque chose. Là, effectivement, il y a encore une fois peut-être le rapport que l'on disait, hein, la mort, décidément la mort et la mort à venir. Le poisson, voilà. Hein.
Et il peut y avoir des surdéterminations, parce que ce qui est surprenant aussi, c'est la Sainte Famille faisant le monde. Ouais. Devant cette profusion de dénuement de
la... Oui. Bah, c'est peut-être justement une manière de, vous voyez, de faire résonner ça. Hein. C'est-à-dire, évidemment, on voit la Vierge. Pourtant, dans la fuite en Égypte, la Vierge, elle n'a pas grand-chose. Hein. Or là, elle fait l'aumône à des enfants qui sont encore plus pauvres qu'elle. Hein. Et effectivement, devant vous montre l'inverse. Donc il y a effectivement un côté, vous avez raison de le souligner, un côté piquant, presque caricatural, un côté critique. Hein. Ça, c'est très peinture flamande, le côté, l'espèce de, comment vous dire, de profusion qui est entre la joie et le cœur mort. C'est l'année dernière qu'on a travaillé sur la peinture flamande, non, il me semble. Vous vous rappelez de Jordaens, par exemple, qui est du 17e, mais il y a un peu toujours... Jordaens, c'est à la fois une espèce de profusion joyeuse où tout le monde rigole, il y en a un qui pisse dans un coin, l'autre qui vomit dans un autre, voilà, donc c'est une espèce de rigolade un peu dégoûtante, enfin voilà, qui a aussi pour but de montrer, c'est ce qu'il faut voir aussi, de montrer les limites de l'homme, hein. C'est-à-dire que l'idée est aussi là de nous faire réfléchir, et le lien avec ça est intéressant, c'est-à-dire que, et ce que vous soulignez est évidemment d'important, c'est-à-dire que c'est aussi une manière, vous voyez, de nous montrer la limite qu'il y a l'un l'autre. Vous parliez tout à l'heure de société de consommation, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de tout ce bazar? Pas sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on est pour étaler ça, pour manger des êtres vivants, on est quoi? Un peu de modestie, que diable. C'est ça aussi qui nous est dit. Hein. Et finalement, les Flamands sont très forts pour ça. Ils sont cash, comme on dit aujourd'hui. Ils montrent la profusion de tout ça jusqu'au côté obscène de cette société de consommation, je reprends votre exemple, qui est bonne, je trouve. Hein. Donc ils montrent ça. Et ils le font quelquefois de manière assez joyeuse. Hein. C'est le cas de Jordaens, un peu plus tard. Hein. Et en même temps, d'une manière tellement emboutissante que, quelque part, c'est écœurant, vous le disiez tout à l'heure. Hein. Ouais. Cette tête écorchée au milieu, faut supporter. Hein. Alors, c'est d'une manière, quelque part, de nous montrer, vous voyez, les limites humaines. C'est marrant parce que juste avant, à Mont-sur-Limine, je faisais un cours sur une chose qu'on avait déjà vue en cours ici aussi, sur un tableau de Millet qui représente la précaution maternelle. Ah oui, par exemple, une femme, vous savez, en train de faire pipi à son bébé.
Oui.
Et je montrais comment tout ça était une manière, finalement, de montrer là aussi les limites de l'homme. Et en fait, l'idée de montrer des gens urinants est une chose qui est en fait une grande tradition de la peinture occidentale depuis le Moyen-Âge, hein, dans tous les pays d'Occident, hein, et qui est à la fois une manière un peu vulgaire de montrer l'homme, mais aussi assez... assez philosophique, parce que ça montre les limites de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, bien sûr. Hein. Alors, l'homme, il a ses obligations, ses contingences, ses limites, etc. Ben, là, c'est un peu la même chose, finalement. Hein. Une espèce de profusion écœurante, indécente, alors que derrière, il y a des gens qui n'ont rien à bouffer. Quoi, hein. Et finalement, quelque chose qu'on nous flanque au visage. Là, hein. Voilà. Et ça, les Flamands, ils sont très doués pour ça. En permanence, les Flamands, paf, ils vous renvoient comme un boomerang ce que la société produit. Quoi. On ne regarde jamais assez les Flamands, je trouve. Parce que regarder ça, en fait, c'est aussi ce que la société d'aujourd'hui nous... Voilà, exactement. Il y a un côté contendant. Quoi. Bon. Voilà.
Il y a du monde.
Il y a du monde.
C'est dans deux parties.
Ouais.
C'est un jugement dernier.
Ben voilà. C'est le jugement dernier. Hein. Alors là aussi, quand on voit ça, on ne peut pas ne pas penser à quelque chose.
Carbone.
Pardon ?
Carbone.
Ah, alors, oui. Ça, c'est si on regarde en arrière. Et si on regarde en avant.
Bah, on est trop nombreux. Eh ben,
pardon ?
On est un peu trop nombreux sur Terre.
Oui. Mais si on pense toujours à l'art, hein, et à, à la chapelle Sixtine, de Michel-Ange. Hein. C'est-à-dire que c'est le grand mur du fond de la chapelle Sixtine, c'est le jugement dernier. Bah, c'est ça, sauf que là, c'est la traduction flamande du thème. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de nouveau par rapport à ce, que, à ce qu'un homme au Moyen-Âge, vous citiez Landervet d'un instant, finalement, peut montrer ?
Les deux personnages, par exemple, qui sortent de l'homme de terre, oui, par rapport au personnage derrière, notamment à la femme, on a l'impression effectivement que ce n'est pas la même époque. Devant, on aurait des Michel-Ange, enfin, des derrière, c'est quelque chose de plus flamand. De plus...
Derrière où ? Là ?
La femme.
Celle-là ?
Non, c'est la femme, la femme centrale, voilà, les femmes derrière.
Celle-là ?
Alors, voilà.
Ouais.
Oui, justement, la femme blanc là,
oui.
Elle n'est pas de race blanche.
C'est, celle-là, vous voulez dire ? Celle-là, ben, celle-là, elle est encore cadavérique, on va dire.
Ah,
oui, oui, il y a un squelette derrière. Ils sont en train de se recharner, si j'ose dire. Voilà. Ils sortent des tombeaux. C'est la résurrection.
Et en haut, à gauche, ça fait aussi les personnages qui entourent.
Le Christ,
voilà.
Ouais. Les saints, parce que les saints participent, enfin assistent à la résurrection. Hein. On voit Saint-Pierre, enfin on les voit tous. Hein. Saint-Paul, enfin ils sont tous présents. Hein.
Ouais. On voit le diable sur la droite, là, en bas, qui embarque ses...
Oui, ses ouailles avec son masque rouge. Ouais.
L'enfer n'est jamais loin, hein. Vous le voyez là hein, aussi. Hein.
Oui, mais l'enfer, il est modeste par rapport à ceux du Moyen-Âge.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Absolument. Oui. Non, on voit bien, vous citiez Van der Weyden et le politique de Beaune à raison. Hein. On voit quand même, quand on a l'un dans l'œil et l'autre ici, la différence entre l'un et l'autre. Effectivement, ce genre de figure. Donc, vous avez aussi un côté très, très portrait, vous voyez, très individualisé. Regardez celui-là. Hein. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le politique beaunois, hein, ou dans les peintures de la même époque. Quoi, hein. Une idée d'un nom, d'un nom plus. C'est dur, à part les grands célèbres. Ça, c'est pour Aubus, hein, qui est un. Ok. Alors. Avant de la cartouche, regardez déjà l'œuvre, elle vous en dira autant que le cartouche, voire plus.
C'est
un portrait. Un
paysager. Ce mur.
Paysager.
Avec des ruines.
Avec des ruines.
Antique.
Antique.
Et qu'est-ce qu'il fait le personnage ? Il est
capable. Voilà, il y a effectivement un personnage ici qui est présenté en bas à droite en train de dessiner, peut-être plutôt que de peindre. Hein. Voilà. Donc, un portrait devant une ruine antique.
Est-ce que c'est le personnage fait le même ?
Peut-être.
On dirait Lambert Wiss.
Oui, un peu. Alors, oui, le personnage que vous avez là, c'est peut-être le peintre. Autrement dit, ce serait quoi ? Ce serait peut-être un autre portrait.
Une évocation de son passage en Italie.
Oui. Une évocation de son passage en Italie, vous pouvez en dire plus ?
À Rome ?
À Rome ? Pourquoi à Rome ?
C'est
le Colisée. Vous avez à droite, c'est le Colisée, effectivement. Tiens, pourquoi le Colisée s'appelle Colisée ? Par parenthèse.
Colisée,
Maintenant, il n'y a plus d'arbres là-haut au sommet du Colisée.
Non, il est un peu moins envahi par la végétation.
C'est-à-dire colosse, grand.
C'est ça. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est grand, c'est parce que à l'époque d'Adrien, si je ne m'abuse, Adrien avait fait placer près du Colisée, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le Colisée, un colosse, qui était un colosse qui avait été commandé en son temps par Néron, qui a présenté Néron en dieu du soleil, en Hélios. Et Adrien avait fait déplacer près du Colisée ce colosse en question, et puisque c'était un colosséon, on a appelé le Colisée Colisée. Voilà. Il y avait le colosse à côté. Il y a encore près du Colisée aujourd'hui l'emplacement du socle où était le colosse en question, de Néron déplacé par Adrien. Voilà. Bon, on ferme la parenthèse. Mais effectivement, donc vous avez là un autoportrait d'un peintre qui se représente peut-être lui-même d'ailleurs en train de dessiner devant les ruines du Colisée. Alors l'idée, c'est quoi là, finalement? Il y a deux idées d'ailleurs. L'idée, c'est évidemment d'évoquer son voyage en Italie. Un peu plus que son voyage en Italie, ça évoque quoi? C'est pas simplement un selfie où il se montre devant
le Colisée. La culture qu'il a acquise là-bas.
Pardon?
La culture qu'il a acquise.
Voilà, c'est ça. Hein. Il montre effectivement sa culture. Enfin, on sent qu'il se recommande de la culture antique. Hein. Vraiment, là, on est en pleine Renaissance. L'Antiquité, c'est sa référence. Il le montre, il se représente à côté du Colisée. Et puis, vous aviez effectivement remarqué qu'il y avait un Cartilio aussi. Hein. Ça nous rappelle quelque chose, à mon avis.
Dürer.
Ça nous rappelle Dürer. D'ailleurs.
Oui, c'est son nom.
Voilà.
Il y a l'année.
C'est ça, il y a l'année.
Et puis il s'appelle Mathéus, Mathéus.
C'est Martin. Ben, je vais vous donner tout de suite son nom. Martin van Heemskerk. Voilà. Donc, effectivement, il y a, vous reconnaissez là, mais au milieu du siècle, alors qu'avec Dürer, c'était au début, cette espèce de volonté de s'affirmer en tant que peintre, hein. C'est le peintre qui, avec sa fiche d'identité et avec ses références, le Colisée.
Pourquoi la plupart des. Enfin, pas la plupart, mais plusieurs peintres ont prennent des noms qui font référence à leur lieu de naissance?
Ben, c'était comme ça. Souvent, effectivement, vous savez, on n'a pas à cette époque encore la manière aujourd'hui d'avoir des noms, un prénom et un nom. Hein. Là, c'est la façon normée, moderne de voir les choses. Ce n'était pas comme ça autrefois. Souvent. Avec une population beaucoup moins nombreuse, hein. C'est le prénom qui comptait, et puis après, ben, on prenait comme nom le nom du lieu où on était né. On est Heemskerk, ben, on s'appelle Martin van Heemskerk.
Mais en Italie aussi.
En Italie aussi. Et on devient, quand un seigneur devient seigneur d'un lieu, il se dit seigneur de tel lieu. Voilà, c'est son nom. Donc, il n'y a pas la manière normée. C'est ce qui crée d'ailleurs quelquefois des complexités dans la compréhension généalogique.
Ça montre aussi la fragilité de la vie, parce qu'il se représente en bonne santé, on va le supposer, et à côté, il y a les ruines de quelque chose.
Aussi, aussi. Ben, c'est effectivement, vous avez raison, d'un statut. C'est effectivement la fragilité des civilisations. Quoi. C'est vraiment que le Colisée est lui-même un colosse, effectivement. Hein. Et d'un empire qui a dominé le monde, en tout cas occidental. Or, c'est aujourd'hui une ruine. Donc, il y a ce que vous dites, vous avez raison, hein, la fragilité des empires les plus puissants.
Ouais. Il est peut-être alcoolisé.
Pardon.
Je me disais,
oui, oui, il fallait, il y a quelque chose qui devait à je veux dire. Oui, c'est ça, je pense qu'il y avait une stratégie. Et là?
Ah, la terre, oh là là.
Oui, il y a le
il y a un serpent.
Il y a des
serpents.
Oui.
Serpents.
Ouais.
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 Puis, tu sais quoi, enfin,
qu'est-ce qu'il a sur la terre? Oui, il y a
une souris
sur la terre.
Mais sinon, il y a un petit chat.
Oui.
Des villes, un enfant. Et devant, il n'y a pas une souris? C'est quoi cet animal
au pied de. Entre
le serpent.
Ah,
c'est un crapaud.
Non, c'est
une
grenouille, un crapaud.
Il y a un serpent.
Il y a un serpent, oui.
Il y a des instruments de mesure.
Et des tas d'instruments. On retrouve un peu ce qu'on a dit chez les ambassadeurs tout à l'heure.
Oui, c'est des instruments de mesure.
Il y a encore des ruines.
Il y a encore des ruines. On se redit, mais encore une fois, c'est normal. Hein, on est à la Renaissance, les peintres ressassent toujours la même chose. Si vous voulez. Vous avez la ruine, antiquité oblige, référence à la culture gréco-romaine, toujours la même chose. On vient de voir
qu'est-ce
que
vous disiez.
On a finalement, effectivement, ces éléments qui évoquent le monde intellectuel. Le serpent et le crapaud évoquent en quoi, peut-être? Peut-être. Hein. Enfin, peut-être l'inverse. Et vous avez les puissances positives, hein, intellectuelles, on mesure, on regarde. C'est quoi
ton mot?
Pardon? Voilà, c'est ça, l'obscurantisme, si vous voulez.
Voilà. Oui, il vit dans la terre.
Oui, voilà. Ils sont chtoniens. Hein, ils viennent du sol. C'est mauvais, quoi.
Et c'est un peu mesurer le monde.
Aussi. C'est ça, c'est ça.
Et puis,
pourquoi il a des châteaux là dans la
forêt? Alors ça vous rappelle quelque chose ou pas?
Oui, il y a une sainte.
Pardon?
Il y a une sainte qui a des châteaux. Non?
Alors, j'en vois pas. Non, par contre, dans l'Antiquité, on représente souvent des représentations allégoriques féminines avec ce qu'on appelle une couronne tourlée, c'est-à-dire une couronne avec des tours, quoi. Hein. Là, c'est ce qu'elle a, sauf que les tours sont presque rivées dans le crâne. C'est donc une figure allégorique, hein. Mais par exemple, quand on présente dès l'Antiquité grecque une tyché, c'est-à-dire une femme qui évoque un lieu, elle a une couronne avec des tours comme ça. En fait, c'est une manière d'allégoriser une figure, là en l'occurrence féminine. Et alors là, c'est assez bien parce qu'il s'agit, à votre avis, il s'agit de quoi? Cette figure allégorique, elle évoque quoi? Elle qui est en train de faire des... comme ça avec son compas.
L'architecture
de manière peut-être un peu plus large.
Les nouveaux voyages, enfin...
Parce qu'elle est sur le monde. Alors, en même temps, il faut trianguler, vous voyez, donc...
Oui, mais c'est étonnant de voir. Il y a les méridiens, il y a l'équateur, oui. Il y a l'écliptique.
Ah oui.
Comme si c'était... on avait une chose céleste en même temps.
En fait, ça nous évoque quelque chose qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et même à plusieurs reprises.
La connaissance.
À travers ces vieilles choses médiévales qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont... On a parlé pour les ambassadeurs tout à l'heure. L'idée de la connaissance, musique, etc. Les arts libéraux. Et en fait, l'œuvre que vous voyez là faisait partie d'une série de la représentation des arts libéraux. Là, c'est la géométrie. Mais vous aviez les autres. C'est d'un artiste qui s'appelle Franz Floris, et c'est donc un panneau parmi la représentation des arts libéraux. Et là, c'est la géométrie, elle triangule son globe, on voit, non, voilà. Sans géométrie.
L'Amérique était déjà découverte.
Ben oui, on la voit. Elle a une drôle de forme.
Non, mais avec la date aussi.
Pardon ?
Avec la date.
Oui. Oh oui,
dans les dates, il y a une erreur dans les dates.
C'est possible, oui.
Pourquoi ?
Non, pourquoi ?
Non, là, c'est bon. Oui, non. Oui. À mon avis, il ne peut pas être né en 1419. Oui. Ça ferait un peu beaucoup.
Hein. Ah oui.
Donc, il y a... J'ai dû... c'est peut-être 89 ou...
1519.
Et encore une fois, on est encore dans...
C'est bien 1519. Oui. Ça doit être 1519.
Encore une fois, on est encore dans des ruines.
Oui, voilà, absolument. La référence à l'antique, il faut que je change le 4 en 5. Ouais.
Non, on est dans le nord.
Espagne,
alors, ça fait beaucoup penser à l'Espagne, pourquoi?
Parce que c'est un nain.
Et parce que ça me fait penser au Ménil, ou bien à tous les tableaux de Velázquez représentant des nains, hein, vous connaissez. Hein.
Le chien est vraiment réel.
Alors, le chien est un grand chien, mais le monsieur est un petit monsieur. Hein. Donc, c'est un nain et un chien. Et alors? Ouais.
On dirait presque une photo.
Ouais.
Oui, très sérieux, très réaliste.
Et que ce ne serait pas un peintre espagnol qui serait allé aux Pays-Bas.
C'est, il y a un peu de ça, mais pas tout à fait. Alors, hispanisant, mais pas vraiment espagnol. C'est quelqu'un qui est en rapport avec notre région, en plus. Attendez, Bourgogne-Franche-Comté. Hein. Je vous rappelle que nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, pas en Bourgogne. Hein. Ça, c'est les gentils gens qui disent Bourgogne. Hein. Nous, nous sommes pas à Dijon.
Pour Philibert Machin.
Philibert, vous pensez à Philibert?
Oui, Lebrou. Ah Philibert Lebrou.
Philibert et Marguerite.
Oui.
Non. Philibert. Enfin, c'est, on n'est pas loin, effectivement. Vous connaissez tous Besançon.
Oui,
oui. Oui,
enfin, du loin. Il y a un monument capital à la Renaissance à Besançon. Allons, capital d'un personnage essentiel.
Ah ben, l'italien,
un tombeau.
Ah non, un monument, un bâtiment grand.
La forteresse.
Visitable.
La forteresse.
La forteresse, c'est pour bon 17e siècle. Hein. Voilà, mais là, nous sommes au 16e.
Ouais, il existe encore. Ouais. Le palais où il y avait des temps, non? Je ne sais plus comment il s'appelle.
Le palais Granvelle. Qui est Granvel? Granvel, c'est le premier ministre de Charles Quint. Granvel est un des personnages les plus influents d'Europe, tout simplement. Et il a son palais à Besançon. Capital, le palais Granvel. Un monument fondamental. Et bien ça, c'est le nain de Granvel. Et Granvel est un personnage qui est proche de Charles Quint, qui effectivement va des Flandres à l'Espagne. Et bien voilà, vous avez là une peinture effectivement nordico-espagnole. Donc votre coup du cœur espagnol, effectivement. Hein. D'ailleurs, le peintre en question, on le surnomme Antonio Moro. Son vrai nom, c'est Antonis Mor van das Horst. Voilà. Mais Antonio Moro, parce qu'évidemment, en Espagne, ça se prononce pas, vous voyez. Et donc, c'est le nain du cardinal Granvel. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce tableau-là aussi, au-delà du fait que ce soit le nain du cardinal Granvel?
C'est que malgré tous ses atours, tout ça, ça reste un nain, quoi.
Ouais. Et le nain, son statut, c'est quoi?
Son statut, c'est la
vérité. Alors, voilà. Alors, il y a plein de choses. À la fois, il est drôle, mais il est coquin. Et il est même plus que ça. C'est lui qui peut vous asséner toutes les vérités. Hein.
Il est insolent.
Ouais.
Il est caustique.
Il est caustique. Il est un peu bizarre. Hein. Les nains sont des gens un peu inquiétants. Enfin, c'est comme ça qu'on les voit. C'est plein, il y en a. Et là, d'ailleurs, c'est une continuation avec le Moyen-Âge. Hein. Le nain, c'est un personnage, évidemment, qui peut dire ses quatre vérités à un empereur. Hein. Sans problème. Hein. Ce que ne peuvent pas faire les autres. Donc, effectivement, il y a là une interrogation qui, sur la personne humaine, à travers un humain particulier, singulier, qui a ses particularités. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce portrait-là, dans ce tableau-là?
C'est le visage.
Oui.
On se trouve que le visage,
c'est le portrait.
Voilà. Ben, oui, parce qu'on ne l'a pas trop dit encore, on l'a un peu dit. Avec mais le portrait, c'est vraiment une chose très renaissante, quand même. D'abord, les portraits, les vrais portraits, hein. Ça commence quand en Occident, en peinture? Des portraits de chez portraits. Hein. Pas des représentations idéalisées, je ne sais pas qui. Hein. Voilà, le portrait qui montre quelqu'un avec ses traits, sa verrue-là, son œil qui va un peu à gauche. Alors, c'est juste un peu avant. Hein. Quelle est l'œuvre qui est considérée comme le premier portrait de la peinture française? C'est ça.
Cloué,
c'est pas Cloué.
C'est
avant.
Non,
c'est Jean de Lebon. C'est le portrait de Jean de Lebon, hein, qui est au Louvre, et qui est le père de Victor, et qui montre Jean de Lebon de profil, hein, profil de médaille, c'est ce qu'on considère comme le premier portrait de la peinture française. Ça date de, en gros, des années 1350, voilà, milieu du 14e. Mais c'est un portrait qui reste, alors qui est relativement réaliste, que le prince a un gros nez, enfin, on sent bien que ce n'est pas idéalisé, mais enfin, ça reste encore un peu, voilà. Hein. Donc, vraiment, l'émergence du portrait, c'est l'extrême fin du Moyen-Âge. C'est, en gros, deuxième moitié du 14e siècle. Au 15e siècle, on commence à voir, un peu partout en Europe, des vrais portraits, notamment en Italie, hein, qui se font. Donc, là, on est encore dans un art assez récent. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, certes, on est dans la deuxième moitié du 16e, mais le portrait n'a qu'un siècle, un siècle et demi derrière lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est effectivement, vous marquez tout à l'heure, devant un portrait très réaliste, quoi. Hein. Le nain, il est vraiment... Et puis, on le compare à la taille du chien, vous voyez, c'est un peu pour accuser... Voilà, c'est ça, c'est en mettant le portrait... C'est, vraiment, on accuse le coup, quoi. Hein. Vraiment, cette idée de portrait réaliste qui vont au bout du bout, hein. Ça, dans le sens, on va creuser ça. C'est encore un art récent, un genre récent. On a vu que la nature morte, c'est un genre récent, que le paysage, c'est un genre récent. Maintenant, on voit que le portrait, c'est un genre qui n'est pas si ancien. Vous voyez à quel point la Renaissance innove. On pourrait presque dire qu'elle invente le paysage, avec les guillemets, vous savez, puisqu'on a vu le paysage juste avant, mais pas au point de la Renaissance, que la nature morte, c'est pareil, et que le portrait existe avant, mais que la Renaissance vraiment enfonce le clou. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est là qu'on voit que la Renaissance est vraiment un moment qui innove dans plein de points. Tiens, le voilà. C'est l'autre.
Il y a beaucoup de personnages.
Voilà. Oui, il y a plus de personnages chez lui. Enfin, il y a toujours de la viande, etc. Là, j'en ai choisi un peu soft. Hein. Pour changer un peu.
Là aussi, ça fait, en fait, je ne sais pas, je trouve que des bandes dessinées de notre époque,
ouais, on les reprend. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression de quoi, comme celle, d'ailleurs, là.
Une rotisserie.
Oui, une rotisserie bien galante.
Ah bon, c'est un monsieur avec des...
Oui, un monsieur avec la dame.
Eh bien, c'est un bordel.
Ah. Avec un pigeon.
Oh bah oui, parce que vous êtes au bordel. Voilà. Il y a des ratés. Eh oui. Voilà, donc c'est... Et ça, vous voyez, c'est très typique... Ça va vraiment dans le sens de la peinture de... Comment s'appelait-il, celui qu'on a vu tout à l'heure ?
Artsen.
Artsen, hein. Tout à l'heure, avec... Et là, plutôt... Alors, il y a encore de la viande, de la saucisse, on est d'accord, hein. Moi, tout à l'heure. La viande, ce qui nous est montré, cette espèce de... avec toujours cette profusion, hein. Ce côté toujours... les mœurs dissolues, ce monsieur qui est en train, vous voyez, de... lutiner deux femmes en même temps, c'est toujours cette espèce de côté un peu débridé que l'on voyait déjà tout à l'heure.
Il y a un visiteur qui arrive à personne.
Oui, absolument, bah oui. Il y en a un là, hein, il y en a un là, chacun son tour. Hein. Voilà.
Il est pensif, celui du fond.
Ben oui, oh, bah, il y a de quoi penser. Hein. Alors le nom, toujours dur à prononcer, Beckelaer. Ah, c'est l'autre, hein. Artsen Beckelaer, c'est vraiment ces deux artistes qui, comme ça, font des œuvres saturées, un peu. Hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages, etc.
Mais il y a une harmonie de couleurs.
Ah oui, c'est sur trois couleurs. Oui, absolument.
C'est presque un carton de tapisserie.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Ah.
Ça ressemble à un carton de tapisserie.
Il y a du
C'est-à-dire que les tapisseries sont blanches, pas noires.
Oui, oui, oui.
Alors,
oui.
C'est pas forcément leur vrai
nom. Non, voilà.
Alors, évidemment, le thème, non, mais la façon de dessiner, moi j'ai en tête des livres, je ne me rappelle plus les livres illustrateurs, mais des livres d'enfants.
Oh oui.
Qui ont ce.
Cette insistance.
C'était pas le même thème.
Ça peut évoquer, d'ailleurs, vous savez, l'histoire du fils prodigue, hein, vous connaissez l'histoire. Mais ça dit, les Flamands adorent montrer des maisons closes. Hein, et les Hollandais aussi. Hein, c'est une chose qui est au XVIIe siècle, à Florès.
Ils
ne
sont pas souvent dehors, faut dire qu'il faut.
C'est peut-être pour ça. Ah tiens, on termine presque encore par quelques œuvres. Ça, vous connaissez.
Oui, on a dit que c'est
un Bruegel, non ? Ah, Bruegel, voilà, Bruegel. Bruegel qui finalement est... Alors, c'est quoi, ce tableau-là ?
Le dénicheur.
Oui, voilà, qui s'appelle le dénicheur. On voit un personnage qui est en train de montrer du doigt... un autre qui est en train de dénicher. Et à votre avis, c'est quoi ça?
C'est un paysage.
Oui, voilà. Là, voilà, on voit bien comment le paysage devient un sujet. Et pourquoi il montre ce personnage dénichant?
C'est pas un proverbe.
Eh bien voilà, c'est sans doute un proverbe. Hein. C'est un proverbe. Alors, je n'ai pas retrouvé lequel c'était, mais c'est assez vraisemblablement, vous savez, le dénicheur, il est en train de dénicher, donc de prendre un œuf, et au moment où il prend l'œuf, d'abord il se casse la figure, puis là, il perd son chapeau. Vous savez, c'est un peu comme souvent on montre des 10 heures de bonne aventure, ou des 10 heures d'aventure. On voit quelqu'un qui est en train de se faire dire la bonne aventure, donc l'avenir, puis on voit derrière quelqu'un, il est en train de lui piquer sa bourse. Donc c'est tout et son contraire. On se fait dire la bonne aventure, en gros, qu'on va être très riche, très bien, comme ça. Et puis en mettant avec quelqu'un qui est en train justement de faire l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous piquez votre argent. Là, c'est un peu pareil. Il déniche un œuf, il vole un œuf, et puis en même temps, bah, il va tout bas, parce qu'il va tomber de l'arbre et il perd son chapeau.
Et il cassera l'œuf, sûrement.
Pardon? Et il cassera l'œuf. qu'est-ce qui peut frapper d'ailleurs dans ce. Dans cette œuvre ou d'autres œuvres que vous connaissez de Bruegel.
On dirait un Pierrot.
Oui.
Mais il n'y a que peu de personnages. Parce que
oui. Oui. Oui.
Les arbres sont finement dessinés.
Oui.
Oui. C'est presque.
Moi, ce qui me frappe, c'est pas vous. C'est le caractère, d'abord très rustique, hein, oui, mais finalement, par rapport à tout ce qu'on a vu, encore très médiéval.
Oui, oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, on est en 68, à la fin du 16e. Hein, et vous voyez, par rapport à des choses qu'on a vues tout à l'heure, on est assez surpris. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais les décors des traditions.
Ben voilà, c'est effectivement une sorte d'artiste. Alors, en mettant les choses nouvelles, la présence du paysage, on l'a vu, ça c'est quoi. Voilà. Mais. Il y a comme ça une espèce de tradition rustique, médiévisante, qui est là, conservée, qui est...
On peut dire la même chose de Bosch, d'ailleurs.
Oui, Bosch est plus précoce. Ah, voilà. Mais Bosch, il est largement sur le 15e, hein, mais c'est vrai. Oui, oui, absolument.
Et pratiquement tous ces tableaux sont sur bois.
Oui, aussi. Et ça aussi, c'est voilà, un aspect assez... assez traditionnaliste, on va dire. Alors, on termine avec encore deux, trois artistes. Alors ça, c'est très maniériste. Ça fait penser à qui, ça? Michel-Ange. Hein. Quand vous voyez le personnage de Brun Blanc, c'est la chapelle Sixtine. Hein. C'est les prophètes de la chapelle de la voûte.
Oui, mais avec des proportions qui ne sont pas du tout celles-là. Hein.
C'est
plus primatis ou...
Oui.
Non.
Ben, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même dans les Inuddin Michel-Ange. Oui, c'est vrai que les têtes sont particulièrement petites.
Oui, elles sont disproportionnées.
Et c'est quoi le sujet?
Le baptême du Christ.
Exact, le baptême du Christ. C'est un peu comme le Hartzen de tout à l'heure. Hein. La scène est dans le fond, et c'est la viande du devant qui est visible. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors l'auteur? Cornelis van Haarlem.
Ah, étoile cette fois.
Pardon,
c'est
sur... Ah oui, lui, oui. Ah oui, c'est un moderniste. Hein. Ça, c'est un moderniste, absolument. Vous avez raison. Hein, et là, aussi, un tableau très, très étonnant. Alors là aussi, on parlait de maniérisme. Hein. Ça, donc, Jean maniériste, c'est un. Voilà. Alors voilà, c'est
les.
Oui, en tout cas, il y a des couleurs un peu particulières, mais c'est vrai qu'on a un tableau très bien. Alors, après, chaque artiste a sa manière d'être, hein, mais c'est vraiment, là aussi, ça fait beaucoup penser au Jugement dernier de Michel-Ange. Les couleurs ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais chaque artiste a son génie propre. Hein.
On dirait un zoo.
Un quoi?
Un zoo.
Oui.
C'est pas une résurrection, on dirait qu'il y a quoi, un homme qui sort d'une grotte.
Alors, c'est plutôt le déluge. C'est le déluge. En fait, on voit l'eau qui commence à monter. Et bientôt, vous voyez, tout le monde est en train de monter sur les montagnes. Et puis, on monte sur les troncs d'arbres, enfin, jusqu'au bout du bout. Quoi. Ça ne sert bien à rien, puisque la terre va être entièrement couverte tout bas. Et là aussi, vous connaissez le pain, très proche du précédent. Hein. Il s'appelle Uitval. Ah oui, mais ça, il faut qu'on connaisse tous ces noms-là. Ah bah si, si. Et vous allez sur le site, vous allez pouvoir regarder. Parce que la semaine prochaine, on revoit tout ça. La semaine prochaine, c'est Rebeu. Et la semaine prochaine, vous me dites tous les noms des artistes. Parce que la semaine prochaine, je mélange les quatre séances précédentes. En mettant en plus les Espagnols, parce que je ne vous en ai pas montré déjà. Sauf la première séance.
La première séance.
Semaine prochaine, je mélange tout et vous me retrouvez tout. Oh, c'est vrai que les Nordiques ils sont un peu terribles, hein, parce que c'est des noms à coucher dehors. Bon ben, Eugtval, voilà. Ça doit même être Eugtval, quelque chose comme ça.
C'est
Eugtval. Mais c'est imprononçable. En français, on dit Ftavel ou Jutval, c'est Eugtval. Chose comme ça. Bon, voilà. En tout cas, c'est un artiste extraordinaire. Ah, alors, puisque vous n'aimez pas, si, c'est extraordinaire. De toute façon, ce n'est pas le problème. N'aimez pas. Allez, la petite question du jour.
La jambe, elle fleurit.
C'est léger. C'était
très magnifique. La tête est petite par rapport au corps.
Alors, c'est quoi ?
C'est un jeune homme.
Un homme ? Un tableau qui représente quoi et qui vient d'où ?
C'est une transe. Voilà. On est toujours dans le nord.
Dans le nord. Et où ? Un pays du nord qu'on n'a pas du tout visité.
Je dirais l'Angleterre.
Eh bien, c'est anglais. C'est anglais. On a vu un tableau anglais, mais par un artiste germano-nordique qui est Holbein. Donc, c'est un portrait d'un acte. En fait, il y a. J'espère qu'il n'y a pas d'anglais ici. Il n'y a pas de. Il y a pas vraiment de peinture renaissante anglaise. Non. Pas vraiment. Il y a un peu, mais enfin bon. Il n'y a pas. Finalement, c'est plutôt Holbein qui est le grand représentant de la peinture renaissante d'Angleterre. Il n'est pas originaire d'Angleterre, si vous voulez. Hein, voilà. Mais il y en a un qui est Hilliard, qui est celui qui a fait ce portrait, vous voyez là, Nicolas Hilliard, mais qui est plutôt un miniaturiste. Et je voulais vous montrer ce que c'est un peu hors d'ordre, monsieur. Moi, je vous ai montré plutôt des peintures, voilà, des vraies peintures. Là, c'est un miniaturiste. On n'a pas vu vraiment de miniaturiste d'autres territoires, mais voilà, c'était un peu pour mettre le projecteur sur l'Angleterre. Il y a cet artiste-là qui est très intéressant, qui évoque ce que les pré-raphaélites feront au XIXe siècle. Hein. Vous avez une œuvre pré-raphaélite, mais raphaélite, justement. Elle n'est pas pré-raphaélite, elle est raphaélite.
C'est de quelle taille ?
Pardon ? C'est petit, oui, ça fait cette taille-là, à peu près.
C'est déjà grand,
sur vélin. Sur vélin, ouais. C'est donc petit. Voilà, je voulais vous le montrer parce que on n'a pas du tout parlé de l'Angleterre, et pour cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais qu'il se passe des choses spéciales. Généralement, il y a pas mal de miniaturistes anglais à cette époque, et il y a des temps sûrement principales. Et c'est vraiment intéressant par rapport à ce qui va se passer par la suite. Alors, je venais annoncer la fois prochaine, dernière séance, et là, ben, je mélangerai les cartes. On va essayer, alors, vous n'obligerez pas hein, à retrouver les noms à coucher dehors de Salary. Ce que je vais montrer quand même là, c'est vraiment le Gotha de la peinture d'Orville, la Renaissance. Hein. Vraiment, hein. S'il y a des noms à... Alors, le genre de l'art, ce n'est pas un catalogue de noms, mais c'est un peu ça quand même. Hein. C'est plutôt un catalogue de formes, hein. Mais il faut quand même connaître un certain nombre de gens. Hein. Alors, on a bien reconnu les Allemands, etc., mais tous ces Hollandais ou Flamands avec des noms à coucher dehors, bon, Artsen, ce n'est pas bien compliqué, hein, mais que le R, on arrive aussi à se rappeler quand même, hein, c'est, par exemple. Ça veut dire 18, hein. Pardon ?
Artsen, ça veut dire 18.
Ben voilà, donc, hein, c'est pas... Hein. Donc, Cornelis van Arlem, c'est pas un drame non plus, quoi, hein. Je vous conseille que Jutval ou Enskert, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà quand même quelques artistes vraiment très importants. Et ben, la semaine prochaine, on va un peu mélanger tout ça. On va essayer de retrouver les Français là, les Italiens là, les Allemands ici, les Hollandais ou les Flamands là. On puis montrera ça par quelques Espagnols. Enfin voilà, la semaine prochaine, c'est un Misto Fanto dans lequel vous allez avoir... Et ben voilà, bravo à vous.